Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Madame de Staël, la femme qui faisait trembler Napoléon. C'est le titre d'un ouvrage de Laurence de Cambronne dont Franck Ferrand a fait son miel ce week-end. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Il faut vous dire que parmi toutes les grandes figures qui ont marqué notre histoire, celle de Germaine de Staël est une des plus captivante. Voilà une femme absolument hors du commun, sympathique, ce qui ne l'empêche pas parfois d'être un brin crispante, je vous l'avoue. Vous allez voir d'ailleurs de quel bois cette femme-là se chauffait. J'ai envie de commencer sur le champ à vous brosser son portrait.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Muriel sur les superstitions liées au sel.
Oui, ça fait partie de ces rites immémoriaux qui trouvent encore une petite place parmi nos réflexes contemporains. Pour le moment, nous avons rendez-vous avec l'un des esprits les plus féconds de ce début de 19e siècle, une grande épistolière, une grande voyageuse, peut-être la première des femmes politiques, Madame de Staël.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
À cette femme étonnante, on aura connu finalement deux passions. La littérature, ça c'est bien évident. Voilà une dame qui tient salon, qui écrit de nombreux ouvrages, on va y revenir tout à l'heure. Et puis, la deuxième passion, ça paraît presque aussi évident, les hommes, bien entendu, au point de collectionner les amants avec qui elle aura des enfants hors de son mariage, car elle est mariée, bien entendu. Il va falloir s'y faire. Madame de Staël est en avance sur son temps. Aujourd'hui, on la dirait sans doute féministe. Elle s'intéresse à la condition des femmes, bien entendu, mais aussi à celle des juifs. Elle est contre l'esclavage, pour la liberté religieuse, en tout cas dans une certaine mesure, on y viendra aussi, pour une Europe des nations, contre les privilèges de l'Ancien Régime, globalement pour la République. Tout ça va lui valoir beaucoup d'ennemis, beaucoup d'ennuis. Elle fera de nombreux voyages en exil, d'abord sous la Révolution, et puis surtout tout durant le consulat et l'Empire, car ses positions vont à l'encontre de celles de Napoléon et elle deviendra en quelque sorte la seule à oser véritablement tenir tête à l'empereur. Anne-Louise Germaine, voilà son nom et son prénom. Il faut connaître quand même son nom parce que ça va vous éclairer tout de suite. Elle est née Necker. À la cour, à l'époque, on disait Necre. Elle est donc la fille de celui qui va devenir le grand ministre de Louis XVI, bien entendu. Elle est née à Paris le 22 avril 1766, donc vers la fin du règne de Louis XV. Alors voyez d'où elle vient, hein, de cette grande famille de Genevois, richissime, protestant, c'est très important. Ils sont du canton de Vaud en Suisse. Elle est donc la fille de ce banquier qui va faire tourner la tête de l'Europe entière, ce Jacques Necker, personnage extraordinaire. Sa mère était la fille d'un pasteur calviniste, sa mère tient salon du règne. Ce qui veut dire que pendant toute son enfance, la petite Germaine va être abreuvée, si je puis dire, aux meilleures sources. Vous imaginez qu'elle rencontre chez sa mère Buffon, Grimm, Édouard Gibbon, Diderot, D'Alembert, enfin ça paraît complètement incroyable. C'est une enfance de rêve, bien entendu. Et alors elle-même apprend l'anglais, le latin, la danse et la musique. Ça, c'est pour les jeunes filles de bonne famille, mais aussi la diction, le théâtre. À 14 ans à peine, elle tient son cercle, figurez-vous. On lui apprend à converser, à donner la parole. Vous savez, c'est tout l'art de ces dames qui tiennent salon. Elle remplace parfois sa mère pour diriger le salon, donc c'est tout à fait, ça doit être très exaltant pour une jeune fille de 14, de 15 ans. Elle écrit des nouvelles, elle écrit des comédies, comme on le fait aussi assez régulièrement. Alors, il y a de nombreuses jeunes filles qui, à l'époque, au début du règne de Louis XVI, ont écrit des comédies. Il y en a très peu qui ont écrit de bonnes comédies. Ça, c'est assez étonnant. À l'adolescence, il s'agit de la marier, bien entendu. Vous vous dites, avec tout ça, avec cette fortune, avec cette éducation, avec cette intelligence, son mariage va être très facile. Et oui, j'ai quand même oublié un petit détail qui est un peu embêtant. C'est qu'elle n'a pas un physique très facile, cette pauvre Germaine. Et oui, ça, c'est, voilà. En fait, elle aura deux inconvénients pour se marier, disons-le. Son physique, d'une part, et puis le fait, par ailleurs, qu'elle soit protestante, ça n'aide pas dans la France catholique et royale. Elle a des atouts, hein. Un père qui a été ministre des Finances, qui vient d'acheter le château de Coppet en Suisse, sur les bords du lac Léman. Elle est très riche, elle est très convoitée, évidemment. Et on projette dans un premier temps de la marier à un certain William Pitt. Vous vous dites comme le Premier ministre anglais. Non, pas comme, c'est lui auquel on songe carrément. Vous savez qu'à 24 ans, il est destiné à devenir le plus jeune Premier ministre de l'histoire anglaise. Seulement, Germaine n'aime pas Pitt, elle n'en veut pas. Autre prétendant, Axel de Fersen, s'il vous plaît, l'amant de cœur, enfin l'ami de cœur de Marie-Antoinette, l'ambassadeur de Suède à l'époque. Et puis ce sera au tour d'Éric Magnus, baron de Stahl-Holstein. Alors là, lui, c'est intéressant. Il est secrétaire à l'ambassade de Suède à Paris. Il a 17 ans de plus qu'elle. C'était un garçon aimable et spirituel, au trait fin, nous dit Jacques Janssen, au regard droit, aux cheveux blonds sous la perruque poudrée, bien vu des belles dames de la cour. Et bien vu aussi de Germaine, qui en ferait bien son mari, de ce monsieur de Stahl-Holstein. Le problème, c'est qu'il est désargenté. Alors, elle a des parents très riches, lui est désargenté. Les parents ne veulent pas de cette union. Le baron de Stahl-Holstein va dès lors avoir une idée qui devient même une idée fixe. Il se dit qu'il va convaincre le roi de Suède de le nommer ambassadeur à la cour de France. Et il explique à Gustave III qu'évidemment, ça permettra d'aider la couronne de Suède par tous les moyens possibles, y compris financiers. Ça dure 4 ans, ce petit manège. Et finalement, le baron obtient sa nomination avec une pension de 25 000 livres. Le voilà à l'abri du besoin, et d'autant plus à l'abri du besoin que sa femme apporte en dot 200 000 livres, une des grosses dotes de cette fin de l'Ancien Régime. Le 14 janvier 1786, le mariage est donc célébré en grande pompe, enfin autant que faire se peut, puisque ça a lieu dans la chapelle luthérienne de l'ambassade de Suède, rue du Bac à Paris. Vous voyez que néanmoins, la pompe doit être relativement limitée. Germaine Necker devient Germaine de Stahl. Elle est présentée à la cour. Le premier de ses enfants va naître. Ça va être Gustavine, qui naît en 1787. Hommage évidemment au roi Gustave de Suède. Elle mourra très jeune, à l'âge de 2 ans. Madame de Stahl est bien consciente d'avoir fait un mariage arrangé. Néanmoins, elle n'est pas très contente de ce mariage, il faut bien vous le dire. Et assez vite, comment dirais-je, la porte va être ouverte aux amants possibles. Elle écrit l'amour est la seule, enfin elle écrira l'amour est la seule passion des femmes. C'est à cette période qu'elle se met à écrire. On est à l'automne 1788, elle publie les lettres sur Jean-Jacques Rousseau. On est tout à fait dans l'esprit du temps, bien entendu. C'est là que se manifeste, c'est là que s'aperçoit, s'entrevoit ce féminisme dont je vous parlais tout à l'heure. Elle écrit également 2 pièces en vers, 3 romans, etc. Et bien sûr, elle va elle aussi, rue du Bac, tenir salon, et les personnalités qui affluent chez elle sont tout à fait extraordinaires. Pour elle, la conversation, je la cite, est un art alliant le bon goût, la culture, les idées, et qui ranime les esprits comme la musique chez quelques peuples et les liqueurs fortes chez quelques autres, sans doute un peu plus nombreux entre nous. Mais ça, c'est moi qui l'ajoute. Dans le salon de Madame de Stahl, on trouve alors tout le monde. Lafayette, dont on a beaucoup parlé ce week-end, n'est-ce pas ? Condorcet, Talleyrand, et puis de très grands personnages de l'aristocratie, Stanislas de Clermont-Tonnerre, Mathieu de Montmorency-Laval, dont on reparlera tout à l'heure. La plupart n'ont Dieu que pour l'Angleterre, pour les idées des Lumières. Ce sont des voltairiens, si je puis dire, quand ils ne sont pas du reste rousseauistes. Ils partagent complètement les passions de Madame de Stahl. Et c'est d'ailleurs dans ce salon qu'elle va bientôt trouver, attention, c'est le premier de la liste, son premier amant.
Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire d'une des grandes figures littéraires ce lundi, Franck Ferrand, vous nous racontez la vie et le destin de Madame de Stahl.
Eh oui, Madame de Stahl, qui était tellement intelligente, mais dont le physique pêchait un peu. Ça, il faut bien le dire. C'est le représentant des États-Unis à Paris, premier des tout nouveaux États-Unis. C'est le gouverneur Morris qui écrit « Elle paraît une femme sensée et d'un caractère quelque peu masculin, mais elle a à peu près l'aspect d'une femme de chambre. C'est une femme d'un esprit remarquable qui est néanmoins au-dessus de tous les préjugés vulgaires. Sa maison est comme un temple d'Apollon, un temple accueillant à tout ce que la cour et à tout ce que la ville peut compter d'esprits brillants de l'époque. Et parmi eux, quelqu'un qu'on connaît comme un des bâtards de Louis XV, vous savez, il fait partie de ces gens, quand ils entrent dans un salon, on chuchote un peu, vous savez que c'est le fils du roi, c'est le comte de Narbonne, Louis de Narbonne. Il est très beau, il est très élégant, très bien en cour, évidemment. Madame de Staël est fière de le compter parmi les fidèles de son salon, et bientôt elle sera fière d'être sa maîtresse, au point d'aller déclarer « Je suis mariée moralement ». Est-ce qu'on doit lui dire qu'elle est également mariée légalement ? Bon, ça c'est un autre sujet. Elle n'oublie pas les événements qui se précipitent, bien entendu, car on est là dans les débuts, les commencements de la Révolution française. Bien sûr que Germaine assiste à l'ouverture des États généraux au mois de mai 1789. Elle y trouve notamment un certain Talleyrand, évêque d'Autun, qu'elle connaîtra encore beaucoup mieux plus tard. Au lendemain de la prise de la Bastille, vous savez que Louis XV va pour la troisième fois rappeler Necker, qui reprend les finances. Donc, évidemment, elle est tout à fait partie prenante, si je puis dire. On sait que notamment au moment des journées d'octobre, vous savez, lorsqu'il y a cette scène extraordinaire dans la chambre privée du roi en retour sur la cour de marbre à Versailles, on est le 6 octobre 1789, et Madame de Staël, la fille de Necker, est avec ses parents, avec la famille royale, voyant la foule, les émeutiers qui ont pris possession de la cour et qui bientôt vont prendre possession de la famille royale et la ramener à Paris. Il y a chez Madame de Staël ce qu'on peut trouver de plus avancé dans la Révolution. Et bientôt, on trouvera dans son salon les constitutionnels partisans d'une monarchie à l'anglaise, bien entendu. En septembre 1790, son père doit s'exiler, une fois de plus. Pour Madame de Staël, ça c'est une catastrophe. Elle vient juste de donner naissance à Auguste, qui est le fils de son amant, de Louis de Narbonne, justement. Elle est, on peut dire, la cible de tous les partis, puisque d'un côté, bien entendu, l'ancienne cour, tous les milieux légitimistes, les personnes favorables à la monarchie absolue ne veulent plus du tout entendre parler d'elle, mais d'un autre côté, les révolutionnaires bontins la trouvent infiniment trop modérée et trop anglicisante d'une certaine manière. Donc c'est difficile pour elle. À cette époque-là, elle a un nouvel amant, Mathieu de Montmorency-Laval, c'est ce beau constituant blond qui fréquente son salon très assidûment, comme par hasard. Et après la prise et le sac des Tuileries en août 1792, elle fait partir Narbonne et Montmorency en Angleterre. Et à son tour, elle s'en va. Cette fois, elle part pour le château de son père à Coppet, en Suisse. C'est pour elle le premier d'une longue série d'exils. Elle va mettre au monde un nouveau fils, donc celui de son amant Narbonne encore, Albert. Alors il faut lui trouver un père à cet enfant, vous imaginez, ça commence à faire tâche cette histoire. Et le fameux Magnus, vous savez, Eric Magnus, contre la promesse du reste qu'on va s'occuper de ses affaires et éponger ses dettes de jeu qui s'élèvent à une somme très importante, Magnus va accepter d'endosser la paternité de l'enfant. En janvier 1793, Madame de Staël apprend, comme tout le monde, l'exécution du roi Louis XVI. Alors là, elle est totalement horrifiée, il faut le dire. Elle a tourné casaque, non pas vraiment, mais elle trouve que la Révolution va vraiment beaucoup trop loin. Elle part pour l'Angleterre, rejoindre Narbonne. Après 20 jours d'un voyage harassant, nous raconte Laurence de Cambronne, elle est si exaltée de fouler le sol anglais, de rouler vers Londres, que cette perspective semble avoir vaincu son épuisement. Sur ces petites routes de campagne étroites et chaotiques, elle a mal au ventre, mal au dos, mais elle ressent un apaisement qu'elle n'a pas senti depuis des mois. Elle revit. Elle s'apprête à retrouver ses amis et surtout, elle s'apprête à retrouver l'homme qu'elle aime, bien entendu. Alors, elle va louer une maison de campagne dans le Surrey. Il faut imaginer ce que ça peut être que le Surrey, à la fin du XVIIIe siècle. C'est le paradis sur Terre, un peu. Et elle retrouve là Narbonne, ses amis Talleyrand, Montmorency. Bref, disons-le, elle a trois amants sous le même toit. À ce moment-là, c'est assez extraordinaire. Sa mère dit « Ma fille est folle. Elle est l'incarnation du vice. » Et c'est vrai que Necker lui-même est furieux. Il ne veut plus entretenir Germaine, son mari, ses amants, ses amis. Au bout de 4 mois, la voilà donc qui repart. En Suisse, elle va attendre son amant, Narbonne. Seulement, il ne vient pas. n'arrivera que quelques mois plus tard. Alors en attendant, elle jette son dévolu sur un aristocrate suédois, le comte de Ribbing, qui a du reste participé à l'attentat contre le roi Gustave III. Ensuite, c'est l'heure, si je puis dire, d'un Suisse, lui aussi d'origine huguenote. Il a 27 ans, il porte des lunettes, il est tout roux, il est souvent assez négligé, mais alors il a un charme fou, il est d'une intelligence incroyable. Vous aurez peut-être reconnu dans ce portrait très, très rapide, Benjamin Constant. Et d'ailleurs pour elle, Benjamin Constant va se faire beau, il se parfume, il voit en elle un être à part, dit-il, un être avec un E majuscule, tel qu'il ne s'en rencontre peut-être un par siècle. Et il dira aussi, si elle avait su gouverner, elle aurait gouverné le monde. Pendant toute la période du directoire, Germaine va rester en Suisse. Son mari, le baron de Stahl, toujours aussi joueur du reste, a contracté quelque 200 000 francs de dettes que Necker va payer, mais l'ambassadeur accepte de reconnaître l'enfant qu'elle attend cette fois de Benjamin Constant, Albertine, dont elle accouche en 1797. On n'a pas fait le compte, mais vous imaginez ce que ça représente quand même depuis le début de cette histoire. Et encore, je ne m'attarde pas sur toutes sortes d'à côté. C'est un peu incroyable tout ça. Madame de Stahl, elle a désormais plus de 30 ans, va rouvrir son salon à Paris, rue de Grenelle, et c'est exactement l'époque où on est en train beaucoup de parler de ce jeune général ambitieux, promis un grand avenir, ce Bonaparte qui a à peu près le même âge qu'elle. Elle veut le rencontrer, ce Bonaparte. Elle est certaine de le séduire, bien entendu, et elle se dit que, avec un peu de chance, elle pourra même l'épouser. Elle le harcèle, elle lui écrit plusieurs lettres. Il faut savoir que dans le reste de sa correspondance, du reste, elle étrille Joséphine. Une monstruosité que l'union du génie à une petite créole insignifiante, écrit-elle. Indigne de l'apprécier ou de l'entendre. En 1798, enfin, elle rencontre Bonaparte au ministère des Relations Extérieures, dont Talleyrand a obtenu le portefeuille. On ne peut pas dire que la rencontre soit remarquable. Du reste, on est juste à la veille là, de la campagne d'Italie. Bonaparte n'apprécie pas cette femme. Vous savez qu'il avait, Napoléon Bonaparte n'aimait pas les femmes qui étaient un peu trop sûre d'elle. Vous savez, elle est pédante. Leur dialogue, d'ailleurs, va tourner au vinaigre. « Général, quelle est la femme que vous aimeriez le plus ?»« La mienne, » répond-il. « C'est tout simple. Mais quelle est celle, alors, que vous estimeriez le plus ?»« Celle qui sait le mieux s'occuper de son ménage. »« Je le conçois encore, » dit Madame de Stahl. « Mais enfin, quelle serait pour vous la première des femmes ?» Celle qui fait le plus d'enfants, madame. Oh, de ce point de vue-là, pourquoi pas. Vous avez la réputation d'aimer peu les femmes. Ah, pardonnez-moi, j'aime beaucoup la mienne.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
La femme de lettres et écrivain Madame de Stahl est au cœur de l'histoire. Vous nous racontez, Franck Ferrand, la vie de celle qui était vivement opposée à Napoléon Bonaparte.
Et oui, et Bonaparte commence à en avoir assez. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans l'antichambre de Germaine, de Stahl. C'est un ministre, il ne faut pas le faire attendre. C'est carrément le ministre de la police de Bonaparte, premier consul. C'est Fouché qui s'est déplacé pour dire à Madame de Stahl qu'il serait peut-être pas mauvais qu'elle aille faire un petit séjour à la campagne. Hein, ce serait bien pour ses bronches. Elle est furieuse, elle rameute tout Paris. Et le frère de Napoléon, Joseph, va essayer de raisonner le premier consul. Sauf que Bonaparte ne veut rien entendre. « Ah, c'est trop !» dit-il. « Et puis, elle est trop laide. » Ça, c'est bien une formule. Certains historiens disent « formule sans doute apocryphe ». Moi, je veux croire qu'elle est vraie, cette formule, parce qu'elle ressemble tellement à Bonaparte. Bref, bientôt, Germaine sera interdite de séjour sur le sol français. Et c'est de nouveau la Suisse. Elle l'attendra 1802 pour revenir à Paris, où elle retrouve Benjamin Constant. Entre parenthèses, vous imaginez ce que ça devait être, toutes ces réunions, ces gens, tous ces noms incroyables qu'on trouvait dans de petits salons de Paris à l'époque. Elle repart pour la Suisse avec son époux malade, qui du reste va avoir la bonne idée de décéder à ce moment-là. Et Germaine de Stahl espère retrouver les grâces de l'empereur avec la publication d'un roman qui s'appelle Delphine, qu'on peut dire peut-être le premier livre féministe. Alors il faut faire attention quand on emploie ce terme de féminisme et de féministe, mais en tout cas, il y a une véritable attention à la condition féminine. Ça, c'est incontestable. Alors, vous imaginez que tout dans ce livre, mais alors tout déplaît à l'empereur. Enfin, celui qui va devenir empereur dans quelques mois. La défense de l'anglophilie, la supériorité du protestantisme sur le catholicisme, l'apologie du divorce, la dénonciation de ce qu'elle considère comme une régression de la condition féminine, enfin bon, etc., etc. Tout est là pour déplaire à Napoléon Bonaparte. Alors, Germaine va revenir un petit peu en France. Elle doit de nouveau repartir donc en octobre 1803. Et cette fois, l'ordre de l'empereur, enfin du premier consul est clair. La fille de Necre ne doit pas s'approcher de la capitale à moins de 40 lieues. 40 lieues, ça fait environ 160 de nos kilomètres, vous voyez. C'est le point de départ de 10 années d'exil à travers toute l'Europe. Madame de Staël va écrire à son amie Juliette Récamier « On est presque mort quand on est exilé. C'est un tombeau seulement où la poste arrive. » C'est tellement joliment, c'est tellement bien dit. De la fin de l'année 1803 au printemps 1804, elle entame un voyage de plusieurs mois en Allemagne, très important ça. On la voit à Weimar, elle est toujours avec Benjamin Constant, elle apprend l'allemand, elle rencontre Schiller, elle rencontre Goethe, vous imaginez ça? Ça ferait une jolie pièce de théâtre, tiens, je dis ça pour notre invité, ça pourrait lui donner des idées. Tout ça est fascinant, et dans cette Allemagne, bien entendu, elle va s'éprendre, elle va écrire ses fameuses lettres, hein, c'est l'ouvrage de l'Allemagne, entre 1810 et 1813, elle voyage aussi en Italie, où elle va connaître Pedro de Souza, du reste, un Portugais de 23 ans, qui est un nouvel amant. Elle est à nouveau en Suisse, c'est là qu'elle assiste. Alors, non, elle arrive juste après la mort de son père, en fait, hein, en 1804. Sur les bords du lac Léman, elle constitue une petite cour, le groupe de Coppet, où elle va réunir des intellectuels, des écrivains. Cette fois, elle est au bras de Prosper de Barante. Elle est également proche, je vous l'ai dit, de Juliette Récamier. Elle a 40 ans maintenant. Alors, elle était déjà pas très belle, il faut bien le dire, mais maintenant, en plus, elle a grossi considérablement. On la décrit comme une figure homasse, lourde et massive, figurez-vous. Elle prend aussi beaucoup d'opium. Pour Benjamin Constant, elle est l'homme-femme dont la main de fer l'enchaîne depuis 10 ans. Et voilà, l'amour n'a pas de règles, n'a pas d'autres lois. Après un court passage en France, 1806-1807, près d'Auxerre, en Normandie, même à Paris, où elle arrive sur la pointe des pieds, elle est de nouveau persona non grata. On la retrouvera à Vienne, où elle rencontre un jeune officier de 22 ans, Maurice O'Donnell. Vous dites, mais ça n'arrêtera jamais. Mais non, ça n'arrêtera jamais. Sa relation avec Constant devient orageuse. On le comprend, on serait orageux à moins. Un jour, elle apprend avec colère qu'il s'est marié secrètement avec Charlotte d'Ardenberg. Et ça va être terrible pour elle. Et elle va l'obliger à cacher son union. En 1810, elle est en France. Le livre de l'Allemagne est saisi. Nouvel exil, elle rejoint de nouveau le château de Coppet en Suisse, c'est un peu son port d'attache, disons-le. Elle va rencontrer Albert Jean-Michel Rocca, un piémontais de 23 ans, il est presque temps que ça s'arrête. Hein. Il est très beau évidemment, romantique, décoré de la Légion d'honneur, mais malade. Elle a quand même un petit peu plus que lui, hein. Elle a 22 ans de plus que lui, mais bon. Elle se marie avec lui néanmoins, et puis elle tombe enceinte et elle accouche d'un garçon, Louis-Alphonse. Cette idylle va donner lieu à une chanson « Quelle femme étonnante et quel profond génie !» Tout en elle produit, tout est célébrité. Et jusqu'à son hydropisie, rien n'est perdu pour la postérité. On se moque de Madame de Staël, on a tort, car c'est elle qui se moque un peu du monde. Bonjour Laurence de Cambronne, merci Bonjour, beaucoup d'être avec nous. Alors, nous allons revenir dans le détail de cette vie extraordinaire dont je n'ai fait, somme toute, qu'effleurer quelques crêtes.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Romancière et essayiste, Madame de Staël est au cœur de l'histoire avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invitée, l'ancienne rédactrice en chef à Elle, Laurence de Cambronne, auteure du livre Madame de Staël, la femme qui faisait trembler Napoléon, paru chez Alary Éditions.
On va parler, bien entendu, de la dimension politique du personnage. Nous reviendrons aussi largement sur sa vie privée, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une histoire extraordinaire. Mais tout de même, Madame de Staël, qu'on le veuille ou non, avant tout, c'est une femme de lettres. D'ailleurs, de lettres au sens propre, on pourrait presque dire. Laurence de Cambronne, elle en a écrit des quantités.
Ben oui, on a d'ailleurs sa correspondance. C'est comme ça que je suis tombée sur elle. J'ai trouvé sa correspondance en 8 volumes.
8 volumes.
1000 lettres que nous avons. Et je me suis plongée dedans et j'ai découvert un personnage fascinant.
On l'entend parler dans ses lettres.
Parce qu'elle écrit aussi bien à ses amants, à son mari. Elle lui dit « Attention, ta jalousie est telle qu'un jour tu vas me perdre ». Et en effet, il a vu que c'était tout à fait juste. Elle parle à ses enfants. Elle dit il faut faire votre histoire et votre grec. C'est très important. Elle écrit à ses amants. Alors les amants, bien sûr, Narbonne. « Si vous ne m'écrivez pas, je me jette dans le lac Léman ». Et comme elle écrit une à deux lettres par jour et que les amants ne répondent pas autant, elle est furieuse.
Elle a rencontré Goethe et Schiller et l'on peut dire que d'une certaine manière, elle est un peu romantique avant l'heure. Elle est la première, une des premières romantiques avec des sentiments exacerbés et l'expression non moins exacerbée des 10 sentiments.
Oui, elle dit toujours sa pensée ne peut pas être séparée de ses sentiments. Et elle découvre que Goethe, en effet, fait de l'introspection, parle de lui, de ce qu'il sent et elle va à l'encontre de toutes ces pièces du classicisme, et elle dit il faut passer à autre chose, il faut parler des problèmes qui sont les nôtres et de ce qu'on a dans le cœur. Donc elle a l'idée qu'elle est en effet considérée comme le précurseur du romantisme. C'est la première des romantiques.
Tout à l'heure, je n'ai pas achevé tout à fait son périple. On va la retrouver en Russie, jusqu'en Suède, etc. C'est assez extraordinaire. Et puis, au moment de la Restauration, alors qu'enfin revient sur le trône le frère de Louis XVI et que on pourrait presque dire que l'étau se desserre autour d'elle, eh bien elle va mourir en fait. Elle a 51 ans, elle meurt le 21 février 1817 à un bal que donnait justement le duc de Cazes, le favori du nouveau roi. Elle est morte d'une hémorragie cérébrale.
En fait, elle a une hémorragie cérébrale pendant cette réception.
Pendant le bal,
C'est en février. Elle rentre chez elle. Elle est paralysée. Elle est assez drôle. D'ailleurs, il y a une lettre où elle dit « Je suis comme une tortue avec les mains et les jambes qui ne bougent plus. » Mais l'esprit est toujours là. Elle continue à faire écrire des lettres par sa gouvernante. Et puis, elle organise ce dernier dîner au mois de juin où elle fait se rencontrer Chateaubriand et Juliette Récamier, qu'elle place l'un à côté de l'autre dans le dîner. Elle est dans sa chambre, elle est malade, elle laisse la porte ouverte, elle entend les gens qui parlent dans le salon, elle est heureuse sûrement de ce dernier dîner parce qu'elle sent qu'elle est en train de partir. Et Juliette Récamier tombe raide dingue de Chateaubriand, c'est le coup de foudre, et elle vient lui dire cette phrase merveilleuse, elle dit « Chateaubriand m'a demandé que je m'occupe de lui. » Et moi, on s'est toujours occupé de moi, mais je crois que je suis prête à m'occuper de lui. Donc, enfin, ça a été le coup de foudre. Et donc, on est en juin, donc, fin mai.
C'est de parler d'un passage de relais, d'une certaine manière.
Oui, c'est très joli, ça. Et puis, elle va mourir en juillet, le 14 juillet. Mais elle est épuisée. Elle a été épuisée par tous ses voyages, par ses grossesses. Elle a quand même été enceinte à 45 ans.
Elle a eu un cinquième enfant
à 45 ans. C'est épuisant. Puis, elle a toujours été sur les routes, dans ses voitures à cheval où il n'y avait pas d'amortisseur. On se dit, mais c'est terrible. L'hiver, sur des routes verglacées. Enfin.
Sa vie se passe au cœur des salons, et pas n'importe quel salon, les plus brillants de cette époque. Et ça, dès son enfance. Sa mère déjà tenait salon et on rencontrait chez elle de grands esprits. Je parlais de Diderot, de D'Alembert, etc. et de Grimm.
Buffon, de Beaumarchais.
Incroyable.
Et la petite fille était là, assise sur un petit tabouret au pied de sa mère et elle écoutait tout. Il ne fallait pas qu'elle parle, mais elle enregistrait. Et ça a duré depuis. Elle avait droit d'être dans ce salon dès l'âge de 8 ans. Et tout Paris disait, mais enfin, la mère est complètement folle de laisser cet enfant entendre des choses, parce qu'il y avait Diderot,
évidemment, le licencieux
Diderot, qui racontait des choses un peu olé olé. Et la petite entendait ça, et elle a été là toute son enfance, en effet.
C'était un esprit d'une liberté absolument incroyable, il faut le dire. Et ça, ce sera le cas toute sa vie, d'une façon générale. Elle épouse les causes qui sont un peu les nôtres, les causes modernes, si je puis dire, dans un temps où ça n'était pas du tout une évidence.
Mais oui, elle est très moderne. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu avec une amie, là, depuis 2 ans. Une femme très proche de moi. D'abord, elle a 5 enfants et moi, j'ai 5 enfants. Donc, j'ai bien compris ça. Mais elle est surtout, elle veut aimer qui elle veut. Elle se bat pour le droit au bonheur des femmes. Elle se bat pour, elle milite pour le divorce, parce que la religion protestante accepte le divorce, mais la religion catholique ne l'admet pas. Et rien que pour ça, elle est contre la, très virulente contre la religion catholique. Donc elle est, c'est pour ça qu'on peut dire qu'elle est quand même une féministe avant l'heure. Alors c'est vrai qu'on a plutôt gardé Olympe de Gouges comme égérie féministe.
Bien sûr, oui.
Parce qu'elle a fini sur l'échafaud et puis qu'elle n'avait pas tous ses enfants. C'est vrai que Madame de Staël, ça part dans
Madame
tous les sens.
Madame de Staël a une vie trop licencieuse pour devenir une héroïne politique.
C'est
ça, c'est incontestable. Et puis, il faut dire qu'elle a été reniée un peu par tout le monde. Par les milieux de cour où elle est née, parce qu'évidemment, elle était beaucoup trop libre. Par sa propre famille. Son père a quand même des relations difficiles avec elle, le grand ministre Necker. Hein.
Oh, c'est sa mère qui surtout, elle avait eu des relations terribles avec sa mère, et ça, on le sent, une espèce
avec
de...
La mère, c'est terrible. Avec le père, c'est compliqué aussi.
Le père, il est toujours là, il paye les dettes des amants, il l'écoute, il lui fait un peu la leçon, mais enfin, il sait qu'il ne pourra rien faire, il n'aurait pas voulu qu'il l'écrive, mais enfin, c'était impossible de ne pas la faire écrire.
Vous voulez pas qu'elle écrive, c'est incroyable, ça.
Ben oui, parce qu'il avait interdit à sa femme d'écrire. Sa femme, déjà, la mère de Germaine de Salles, écrivait, se piquait un peu d'écrire, et il lui interdisait de publier. Il disait c'est trop dur de publier. Après, la critique est trop dure. Donc,
on est trop exposé.
Oui, on est trop exposé, c'est ça.
Mais l'exposition ne faisait pas peur à Germaine du tout. Au contraire, elle avait peur de rien. Elle voyage énormément. Elle s'intéresse aux mœurs des différentes régions traversées. Et elle est en quelque sorte... Alors, j'ai parlé de féminisme tout à l'heure avec de grands guillemets. Je reprends mes grands guillemets pour parler maintenant d'européisme. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est la première des européennes au sens moderne actuel du terme ?
C'est ce qu'elle dit à la fin, en 1813, quand elle fait ce voyage en Russie et en Suède. Elle dit, mais les pays d'Europe devraient s'unir. Elle est tellement européenne. Elle est aussi à l'aise en Allemagne qu'en Angleterre, en Russie. Elle arrive, elle se sent chez elle. Et elle dit, mais on est tous très proches. Pourquoi se fait-on la guerre ? Il faut s'unir. Là, on peut dire que c'est la première européenne, oui.
Elle va créer, alors à Paris bien sûr, mais surtout en Suisse, à Coppet, hein, chez son père, dans ce somptueux château des bords du lac Léman. Elle va créer un cercle qui devient un cercle d'influence et qui va bientôt faire de l'ombre au pouvoir français, notamment à Bonaparte.
Oui, c'est un think tank, ce groupe de Coppet. Il y a tout le monde. Et puis elle adore, elle est comme sa mère, elle adore qu'il y ait des gens qui ont des idées opposées.
Ah oui, c'est ça. Débat. Elle a l'esprit de contradiction par essence. Par essence.
Donc elle aime qu'il y ait débat. Et donc il y a des opposants. Et elle a toujours reçu les opposants. Alors pendant tout un temps, il y avait les Allemands, beaucoup d'Allemands. Les Anglais ne pouvaient pas venir parce qu'il y avait le blocus continental, ils ne pouvaient pas venir sur le continent. Et dès que Napoléon est tombé, pouf, toute l'Angleterre est arrivée. Et le dernier été à Coppet, il y avait des tas d'intellectuels, d'hommes politiques anglais. Ça, c'est tout ce qu'elle aimait.
Alors de mémoire, je crois que Napoléon disait « J'ai 4 ennemis en Europe, l'Angleterre, la Prusse, l'Autriche et Madame de Staël ». C'est curieux, l'importance qu'il lui donnait, somme toute.
Il disait des choses très drôles d'elle. Il disait, c'est une machine à mouvement. Elle agite les esprits. Je ne veux pas d'elle en France. Et c'est une femme qui est à craindre à Paris. Donc, il supportait pas que l'opposition, de toute façon.
Disons qu'il était l'ordre, il était la remise en ordre.
Oui.
Et elle, par essence, même dans les périodes où on avait besoin d'ordre, restait l'incarnation du désordre. Oui. Hein, c'est ça, surtout.
Elle trouvait en Angleterre, son modèle, c'était l'Angleterre. Il y avait une révolution « glorious and bloodless », lui disait son père, c'est-à-dire sans une
goutte
effusion
de sang. Enfin, c'est
de
pas
sang.
Tout à fait vrai, du reste, mais bon.
Ah bon.
C'est globalement vrai.
C'est ce que lui disait son père. Enfin, c'était son modèle, le système à l'anglaise. Et Napoléon ne supportait pas qu'il y ait une opposition, alors que pour elle, l'opposition, c'était quelque chose qui était bien installé en Angleterre et qu'elle aurait voulu voir s'installer en France. Et elle a cru d'ailleurs au début quand Napoléon a créé le tribunat et elle s'est dit voilà, on va pouvoir discuter une assemblée où on va pouvoir discuter les lois. Alors là, elle devait être excitée comme une folle, mais bon, ça n'a pas duré.
Alors nous avons parlé de l'écrivain, nous avons dit un mot de la politique. Il faut maintenant évidemment qu'on en vienne à l'amoureuse.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
La grande figure de l'histoire de la littérature française et l'amoureuse Madame de Staël est au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, vous recevez Laurence de Cambronne, auteur de Madame de Staël, la femme qui faisait trembler Napoléon chez Alary Édition.
Eh oui, c'est un ouvrage, je le dis, extrêmement prime-sautier, un peu à la manière qu'avait Madame de Staël d'envisager les gens et les choses. Ça se lit très vite et très facilement, si je puis dire. C'est intéressant de le souligner. Alors, beaucoup de réactions. Béatnik nous dit, à ne pas confondre avec Madame de Staël, mémorialiste et épouse du maréchal de camp du Duc du Maine. Oui, ça, c'est Madame de Staël de Launay qui a écrit des mémoires sur l'époque de, juste au moment de la Régence. David nous demande si elle était finalement, alors à quoi s'en tenir, était-elle républicaine ou monarchiste? Mais elle était favorable à une monarchie constitutionnelle à l'anglaise, avec une idée de république assez affirmée, Laurence
oui,
de Cambronne.
Oui, au début, mais après elle est très vite devenue républicaine. Elle a compris que la république allait sauver la France, et dès 1794, elle est républicaine.
Patrick, grand fidèle de l'émission, évoque toutes ces femmes incroyables de la Révolution, hein, Madame Récamier, Madame Tallien, Olympe de Gouges, Charlotte Corday, donc Madame de Staël. Il y en aurait d'autres, du reste, on avait parlé de Thérouanne, de Méricourt, etc. C'est vrai que c'est une période particulièrement faste pour la gent féminine.
Bah oui, tout d'un coup, elles se sont dit, elles n'avaient quand même pas le droit ni d'être députées, ni d'être ministres. Les femmes qui avaient une tête, qui voulaient avoir un peu de l'influence, il n'y avait pas tellement de moyens de s'exprimer.
Et puis, alors, nos auditeurs via Twitter nous disent, bon, bien, maintenant que la question est posée, peut-on savoir s'il y a un lien entre Laurence de Cambronne et le général du même nom que tout le monde connaît forcément?
Alors, le général doit être un lointain cousin puisqu'il venait sa famille venait de Picardie et moi, ma famille vient d'un petit village qui s'appelle Cambronne-lès-Ribécourt, qui est près de Compiègne. Mais le général, sans rancune, a épousé une Anglaise 2 ans après Waterloo et a eu 4 filles.
Alors,
le nom est éteint. En tout cas, je ne descends pas directement de lui.
Bon. On fera d'ailleurs un jour une émission sur le général Cambronne. Tiens, je regarde Lorena Martin en disant ça. Je trouve que c'est une bonne idée. On pourrait faire ça. Il y a beaucoup à dire sur lui et pas seulement le célèbre mot, bien sûr. Alors, revenons un instant sur cette voyageuse. Vous nous dites, elle a énormément voyagé. C'est vrai que c'est incroyable. Elle est toujours en route. Elle est d'un exil dans un autre. Alors aujourd'hui, ça paraît évident. On prend l'avion ou le TGV. Bon, à l'époque, il faut cahoter sur des chemins ingrats, dans des voitures difficiles, entre des auberges peu accueillantes. Il faut souligner ça quand même.
Oui, et quand elle va rejoindre son amant Louis de Narbonne à Londres, elle met 1 mois.
C'est ça.
De Suisse, de Lausanne à Londres. Donc, il faut dire qu'elle part le 1er janvier. Rien ne l'arrête. Elle avait décidé de partir, elle part. Et donc, le Jura est enneigé. Mais quand elle part en Italie, elle part à nouveau en plein hiver. Comme les routes sont impraticables, elle finit en chaise à porteur. Elle demande des chaises à porteur. Elle arrive à Turin en chaise à porteur. Rien ne l'arrête.
Elle va adorer l'Allemagne, bien entendu. Et pour cause, c'est ce côté romantique dont je parlais tout à l'heure. Elle traverse la Pologne, on la retrouve en Russie, à un âge quand même un petit peu avancé pour l'époque.
45 ans, ouais.
Tout ça est quand même étonnant.
Et dans chaque commissariat de police, il y a son nom recherche, comme dans le Far West, Wanted, Madame de Staël. Elle est recherchée parce qu'elle fuit les sbires de Napoléon.
Elle n'a jamais été vraiment maltraitée pour autant, disons-le.
Par Napoléon?
Oui.
Mais l'exil pour elle, c'est horrible.
Voilà, c'est ça.
Elle pense que la vie est à Paris, que la vie est dans un salon avec ses amis, avec des gens des intellectuels. C'est une vraie douleur pour elle, l'exil, vous l'avez dit d'ailleurs.
On aura compris en tout cas qu'elle ne s'économise pas du tout, qu'elle vit tout pleinement, ses idées bien entendu, mais aussi ses sentiments. Et alors, c'est quand même incroyable cette collection d'amants qui, pour certains d'ailleurs, pour un certain nombre, lui auront laissé des souvenirs, lui auront laissé des enfants.
Oui.
C'est quand même incroyable.
Elle n'a jamais été seule. C'est une femme qui est amoureuse et dès qu'elle sent que ça ne va pas, il y a un autre amour. Mais elle est perpétuellement amoureuse.
Elle a cette capacité assez magnifique du reste, me semble-t-il, a laissé la passion la gagner. Oui. C'est-à-dire qu'elle est d'une nature amoureuse. Ça, c'est oui. magnifique. Elle ne collectionne pas du tout les amants comme d'autres auraient pu le faire. Elle les a les uns après les autres par amour
oui,
et par
passion. Oui, ce sont de vraies
amoureuse.
Histoires. Voilà, ce sont de vraies histoires. Et à chaque fois, elle y croit. Et à chaque fois, elle est malheureuse. Parce qu'à chaque fois, quand même, elle se fait... Elle est abandonnée. Elle se fait larguer.
Lequel de ses amants l'a-t-il le plus marqué? Est-ce que c'est Narbonne?
Oui,
est-ce que c'est Constant?
Que c'est Louis... Elle était beaucoup plus amoureuse de Louis de Narbonne que de Benjamin
C'était
Constant.
C'était le premier grand amour, peut-être.
C'était le premier grand amour de sa vie. Benjamin Constant, ils avaient les mêmes idées libérales, c'était les deux libéraux.
Il y avait une complicité.
Il y avait une complicité
alors
intellectuelle.
Louis de Narbonne, c'est l'altérité d'une certaine manière.
Voilà, parce que Louis de Narbonne, c'est un petit dandy, en fait,
oui.
de la cour. Et elle le pousse, elle va demander à Louis XVI qu'il soit ministre de la guerre, elle obtient le poste pour lui, elle lui écrit ses discours, parce qu'il est un peu incapable d'écrire ses discours. Donc elle le fabrique, elle le façonne, mais c'est son grand amour, oui.
Et Talleyrand là-dedans?
Talleyrand, alors ça c'est très drôle, parce que dans ses mémoires, Talleyrand dit que Madame de Staël l'a littéralement violée, ce qu'on peut imaginer d'ailleurs.
Elle lui a sauté dessus.
Elle lui a sauté dessus. Alors là, c'était en 1789, début l'hiver 88-89, quand elle habitait à la cour. Et après, Talleyrand a été très ingrat, parce qu'elle l'a beaucoup aidé, Talleyrand. Elle lui a donné d'abord beaucoup d'argent. À un moment, quand il est revenu d'Amérique, il n'avait plus rien, elle lui donne de l'argent. Elle lui obtient le ministre des Affaires... enfin des relations extérieures au moment du directoire, et après, il ne la reverra plus. Du jour au lendemain, il la trouve impossible. Lui, il veut s'atteler à Napoléon, veut faire carrière, et il sent que s'il continue à voir Madame de Staël, il ne fera pas carrière. Donc, du jour au lendemain, il ne la reçoit plus et il ne va plus dans son salon.
Alors, c'est vrai qu'elle est très intelligente et qu'elle a un tempérament tout à fait hors du commun, mais tout de même, c'est un peu inouï de voir que cette femme qui n'a jamais été belle, qui s'en l'est dit peu à peu forcément, va avoir des amants de plus en plus jeunes et de plus en plus beaux. C'est quand même incroyable.
Oui, alors moi j'ai ma petite idée sur la question. Ce sont des jeunes garçons qui ont 20 ans. Elle a peur de rien, elle n'a pas peur du sexe.
Elle est un peu la reine des abeilles.
Elle se donne. Et je pense qu'ils font leurs premières expériences sexuelles avec elle.
Et voilà.
Elle est très à l'aise, ils sont contents. Mais très rapidement, ils comprennent que c'est pas, qu'il ne faut pas rester là. Et au bout de 6 mois, 1 an, ils s'en vont.
Ouais.
Et là, il y en a une succession de deux ou trois, Pedro de Souza, Prosper de Barante.
Il y a eu le Suédois, la Ribbing. Alors, à la fin, il y a John Rocca.
Ah oui, alors ça, c'est une belle histoire, quand même. Parce que John Rocca, il a 22 ans, il est beau comme un dieu. Il revient, il marche avec une béquille, il a été blessé pendant la guerre d'Espagne.
Elle a 30 ans de plus que lui.
Elle a 30 ans de plus que, oui, 32 ans de plus que lui. Et il est fou amoureux d'elle. Et elle, en fait, elle dit de lui, la parole n'est pas son langage, parce qu'il n'a jamais lu un livre, il ne parle pas, donc ça la change beaucoup de ce qu'elle connaît. Et elle va l'aimer parce qu'il l'aime tellement qu'elle va finir par l'aimer.
Il est tellement jeune, tellement beau et tellement amoureux quand même,
oui,
ce serait difficile.
Voilà. Ouais. Donc c'est, mais enfin ça durera trois ans. Mais la fin va être illuminée par cet amour de Rocca. C'est très très joli. La fin de...
Vous avez parlé tout à l'heure de la dureté de cette mère, et dans votre livre, on découvre qu'en fait, peut-être que si Madame de Staël vole ainsi d'amant en amant, cherche absolument à être aimée, y compris du seul homme d'Europe qui ne veut pas l'aimer du tout, c'est-à-dire Napoléon Bonaparte, qu'il l'aime peut-être à sa manière du reste, mais
oui.
C'est parce qu'elle a manqué de l'amour en général et de l'amour de sa mère en particulier.
Ah oui, moi il y a une scène qui me bouleverse, c'est... Sa mère est malade, c'est la fin, elle va mourir, et elle a dit à sa fille qu'elle ne voulait pas la voir. Donc la porte est fermée. Sa fille Germaine se met dans la pièce à côté avec un piano, elle joue du piano en se disant que ça va apaiser sa mère et que ça va l'amadouer. Et qu'un jour sa mère va accepter d'ouvrir sa porte, elle veut revoir sa mère. Eh bien non! La mère va garder sa porte fermée, ne va pas revoir sa fille avant de mourir, et donc dans les 2 mois qui précèdent la mort, sa fille ne pourra pas la voir. C'est horrible, c'est affreux. Et d'ailleurs elle dit, Madame de Staël, elle dit, je crois que la haine est le sentiment le plus durable dans ce monde. C'est-à-dire qu'elle voit la haine de sa mère.
La haine était peut-être le sentiment le plus durable, mais il était sans doute aussi celui qui lui était le plus étranger. Ça, c'est
étonnant. Absolument. C'était une femme généreuse, généreuse de sentiments, généreuse et pas rancunière. Parce que Talleyrand, par exemple, elle l'a reçue à la fin de sa vie, alors qu'il a été quand même pas très sympa.
Oui, elle tournait la page.
Ouais.
Elle était bonne fille, si je puis dire, avec toute l'intelligence que ça suppose, naturellement.
Oui.
Merci beaucoup, Laurence de Cambronne, d'avoir fait revivre Madame de Staël, la femme qui faisait trembler Napoléon. Votre ouvrage est publié chez Alary Éditions.
Vous restez avec nous, on vous retrouve dans un instant sur Europe 1 et Franck Ferrand vous répondrait à la question de Muriel qui s'interroge sur les origines des superstitions liées au sel.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez, Franck Ferrand, à la question de Muriel qui, via la page Facebook de l'émission, vous demande quelles sont les origines des superstitions liées au sel, comme le fait de mettre du sel dans les quatre coins de la maison lorsqu'on emménage.
Oui, mais en fait, vous savez, le sel est une substance quasi magique et ce, depuis la nuit des temps. C'est un élément essentiel dans la vie des peuples. Et puis, c'est quand on parle de sel de la vie, vous voyez, c'est-à-dire que c'est ce qui ranime, c'est ce qui ravive le goût des choses, bien entendu. Alors, on sait que autrefois, dans l'Antiquité, par exemple, les soldats percevaient une partie de leur salaire en sel, d'où le mot salaire d'ailleurs, hein, ça vient directement de là. Dans la Bible, on parle beaucoup de sel, bien entendu, toujours synonyme de vie, d'espoir, hein, c'est ce que je vous dis. Et puis, au Moyen-Âge, va apparaître ce terrible impôt sur le sel, la gabelle, bien entendu. Alors ça, évidemment, c'est tout de suite moins sympathique, la gabelle. En fait, ce sel joue un rôle tellement essentiel qu'on finit par lui donner une importance peut-être excessive. Alors c'est vrai qu'on dispose du sel dans les coins de la maison pour éloigner les mauvais esprits. On faisait ça pendant très longtemps, pendant des siècles. On jette une pincée de sel par-dessus son épaule pour conjurer le mauvais sort, parce que le sel peut aussi avoir un aspect négatif, ne l'oublions pas, notamment quand on salait les cultures ou les terres. Évidemment, on les rendait définitivement infertiles. Bonjour Marion Ruggieri.
Bonjour Franck, et il faut poser le sel sur la table aussi.
Ah oui, bien sûr, et ne pas demander à son voisin. Hein.
Exactement. Alors, sans transition, que se passe-t-il quand on n'est plus d'accord avec un frère, une sœur, un parent, quand on a honte de sa famille? Est-ce qu'il faut couper les liens ou non? Est-ce que c'est une rupture familiale? Est-ce que c'est plus dur qu'une rupture amoureuse? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui la comédienne Agnès Soral, la sœur d'Alain Soral, qui publie un roman assez bouleversant qui s'appelle Frangin.
Décidément des femmes de caractère cet après-midi sur Europe 1, n'est-ce pas, Ombline? À demain, Ombline.
À demain, Franck.